Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 7h temps universel et 2h à Washington. Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale veillée électorale 2022. En votre compagnie, Idrissa Seloudia
et Eric Manirakidza.
Des millions d'Américains se sont rendus aux urnes hier lors d'élections dites de mi-mandat, où tous les 435 sièges de la Chambre des représentants étaient à renouveler, ainsi que le tiers du Sénat. Le contrôle de ce Congrès, aux mains actuellement du parti du démocrate Joe Biden, est crucial pour les deux dernières années de son mandat à la Maison-Blanche. M. Biden pourrait en effet se heurter à une forte résistance en cas de victoire législative des Républicains. Ces élections sont également décisives pour l'avenir politique de son rival républicain Donald Trump, impatient de repartir à la conquête de la Maison-Blanche. Pour nous aider à analyser les résultats déjà connus, nous avons avec nous des politologues et observateurs politiques. Mais tout d'abord, Eric, les résultats dont nous disposons.
Oui, Idrissa, les démocrates ont remporté un siège potentiellement déterminant pour le contrôle du Sénat avec la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie face à un candidat soutenu par l'ex-président Donald Trump. Selon Reuters et Associated Press, des résultats confirmés aussi par les chaînes américaines Fox News, CNN et NBC. Les Républicains ont remporté aussi une première victoire à l'un des sièges les plus disputés du Congrès américain. Ils ont décroché le poste très convoité de sénateur dans l'Ohio, un des bastions industriels et agricoles de l'Amérique. Le contrôle du Sénat est d'autant plus incertain, tout dépendra de quelques États clés comme la Géorgie, l'Arizona où les compétitions étaient serrées. Pour le moment, le compteur donne 48 sénateurs aux démocrates et les républicains ont déjà remporté 47 selon toujours les projections de Reuters et Associated Press. Les enquêtes d'opinion Idrissa prédisaient une large victoire des républicains à la Chambre, mais la vague géante rouge, la couleur des républicains promise par Donald Trump, ne s'était pas encore matérialisée hier soir, le dépouillement étant loin d'être achevé. Ils doivent impérativement remporter 21 sièges supplémentaires aux 197 qu'ils ont déjà remportés, selon toujours les tendances de Reuters et Associated Press.
Vous parlez de la Chambre des représentants.
C'est ça, tout à fait. Et les démocrates ont besoin de 38 sièges pour garder le contrôle de cette Chambre. Mais le décompte continue. Côté gouverneur Idrissa, le camp démocrate a arraché aux conservateurs de postes de gouverneur aux républicains, c'est dans le Maryland et le Massachusetts. Le parti démocrate s'est aussi épargné une grosse frayeur en conservant le contrôle de l'état de New York, où les républicains croyaient être en mesure de déloger la gouverneure Kathy Hochul. Et en Floride, le gouverneur sortant Ron DeSantis a été réélu de manière triomphale.
Au Maryland, vous avez parlé de Westmore, qui est le premier Africain-Américain à accéder à ce poste, mais aussi une autre première, son colistier, celui qui est maintenant gouverneur adjoint élu, Aruna Miller, est immigré indien. Voilà, maintenant nos invités, nous aurons le professeur Mohamed Dumboj de Manhattan College, nous aurons aussi Jory Ngandu Likadi qui est à Atlanta en Géorgie où une importante élection sénatoriale a lieu, Mamoudou Bendjakite en Pennsylvanie, également très crucial, le professeur Dennis Beaver qui est un avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield en Californie, vous le connaissez très bien. Et puis voilà, nous allons avec eux, tout d'abord nous leur disons bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, commençons par vous, professeur Mohamed Moj. Quelles leçons tirez-vous de ces élections et de ce conseil jusqu'à présent?
On s'attendait à un raz-de-marée rouge qui ressemble donc les couleurs du Parti républicain et cela ne semble pas être avéré. Il semblerait que, pour compte fait, peut-être ils auront une majorité très courte au Sénat, peut-être un ou deux sénateurs, et alors que là c'était projeté peut-être même une sorte de différence de 6 ou 7 ou 8. Alors que dans la Chambre des représentants, où ils pensaient gagner une cinquantaine, voire même une soixantaine de sièges, on risque de se retrouver avec une portion congrue, ou peut-être l'écart des sièges serait, disons, moins de 10. Donc c'est un peu ce que les projections et les analyses politiques et les bulletins à dépouiller nous donnent pour l'instant. En tout cas, on peut conclure que Biden n'a pas subi ce que subissaient ses prédécesseurs raclés, donc pour des élections de mi-mandat. Ce sera certes une défaite pour les démocrates, mais une défaite très honorable, très limitée dans l'ensemble.
Merci, professeur Eric.
Oui, professeur, tous les projecteurs sont ainsi braqués sur la Pennsylvanie, la Géorgie, un autre.
Allons en Pennsylvanie, puisque vous l'avez mentionné, Eric, avec Mamadou Ben Diakité.
Oui, Mamadou Ben Diakité, en Pennsylvanie, ce n'est pas encore décidé.
Non, bonsoir, ça va bien. Et c'est Mamadou Ben Diabaté, en Diakité.
Pardon, alors, Mamadou Diabaté, allez-y.
Oui, pour le moment, ce n'est pas décidé, mais la tendance, je crois que les démocrates vont gagner à Pennsylvanie, parce que les votes restants sont plus à Philadelphie. Et Philadelphie, très généralement, vote pour les démocrates. Ouais. Donc moi, je suis à peu près à 80% sûr que Pennsylvanie, les démocrates vont remporter.
Eric, nous passons maintenant à M. Dennis Beaver, qui est avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie.
En Californie, le gouverneur de cet État a été reconduit. Il y a aussi le sénateur qui avait remplacé Kamala Harris dans cet État, qui est déjà confirmé comme élu. Dennis, comment vous analysez d'abord les résultats au niveau de votre État? Il n'y avait pas d'enjeu, les démocrates, ils sont majoritaires là-bas.
Oui. Donc il n'y avait pas question. On savait très bien à l'avance ce qui allait se passer. Hein. À mon avis, le truc, le problème, ce que... qui trouble beaucoup d'Américains, c'est les gens qui soutiennent toujours Trump et qui veulent qu'il va devenir président encore une fois. Il y a deux, trois jours, je ne sais pas qui a dit, non, si les républicains gagnent, on va abandonner l'Ukraine. C'est ça qui ça fait de la peine et on est vraiment inquiet.
Monsieur Beaver, comme vous le savez, l'ancien président Donald Trump était fort impliqué dans ces élections de mi-mandat. Il avait ses propres candidats. Comment estimez-vous les résultats pour Monsieur Trump après toute cette campagne qu'il a battue pour appuyer ses propres candidats?
Puisqu'il y a beaucoup d'Américains qui l'aiment, hein, qui croient à ce mensonge que l'élection a été fauchée, a été volée, ils y croient. Trump peut dire n'importe quoi, et oui, d'accord, Donald, t'as raison. Donc c'est un moment dangereux, très dangereux pour le pays.
Merci, Monsieur Dennis Beaver. Maintenant, on parle à Jurie Ngandou Likadi, qui est à Atlanta, en Géorgie. Atlanta où la course a... Bon, le gouverneur a été réélu. C'est quelqu'un que Donald Trump n'aimait pas particulièrement. Il lui avait trouvé même un candidat, n'est-ce pas, contre lors des primaires, mais il a réussi à se faire réélire. Ce n'est pas encore clair pour les candidats maintenant démocrates et républicains au Sénat.
Je veux bien répondre à la question. Oh, ici, chez nous, à Atlanta, Georgia, il y a le gouverneur qui a été réélu. Les deux candidats noirs présentés par, d'un côté, le républicain et de l'autre côté, le démocrate, ils sont vraiment côte à côte. Donc, à ce moment, on ne peut pas dire qui peut gagner et qui ne peut pas gagner. D'emblée, je vais vous dire, comme l'ami venait de le souligner, les candidats présentés par Donald Trump est très bien parti, mais c'est un parti républicain qui est divisé parce que nous n'avons pas vu l'engouement comme ça a été dans les camps de démocrates où nous avons vu l'ancien président Obama, l'ancien président Bill Clinton, on a vu la candidate malheureuse Hillary Clinton qui est passée et même les autres membres qui ne pouvaient pas être dans ces comités-là, ils sont passés à tour de rôle dans chaque État où ils avaient des candidats, ils sont allés défendre, ils sont allés faire la campagne. On n'a pas vu ça, on a vu seulement Donald Trump seul avec les candidats qu'il aimait, et les autres candidats pouvaient dire non, je ne voudrais pas que vous puissiez m'accompagner. Alors imaginez lorsque vous êtes dans un parti politique comme celui-là, c'est déjà difficile, c'est déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. D'emblée, les candidats gouverneurs a été réélu, mais les deux ici, ils sont côte à côte jusqu'à ce moment. Je pense qu'on va assister au scénario de la fois passée, où on va dire qu'ils doivent revenir dans une semaine.
Un ballotage.
Et aller encore aux urnes. Donc c'est ça ce que nous pouvons faire comme analyse à ce moment.
Ah ouais, donc un ballotage est possible. Il faut avoir plus de 50% pour pouvoir passer, n'est-ce pas, au premier tour.
Et le secrétaire d'État en Géorgie a très bien mentionné qu'aujourd'hui, on n'aura pas les résultats des sénatoriales là-bas.
Voilà, Eric. Et parlant des candidats, bon, dans le cas de la Géorgie, le candidat de M. Trump est un ancien footballeur, une vedette du football américain, pas le soccer, comme ils disent, c'est Herschel Walker, et c'était un candidat très controversé, tout aussi comme ce monsieur J.D. Vance dans l'Ohio. C'était un siège républicain. Bon, le sénateur républicain a décidé de prendre sa retraite et monsieur Trump a appuyé J.D. Vance et J.D. Vance a gagné. N'est-ce pas? Alors, professeur Mohamed Modj, qu'est-ce à dire? C'est un bilan mitigé pour monsieur Trump?
Oui, très, très mitigé. En fait, beaucoup de personnalités, disons, modérées qui ne se sont pas représentées ou ont été défaites durant les primaires par des candidats jusqu'au boutiste de Trump. Maintenant, aux élections générales, on se rend compte que donc il y a un problème d'éligibilité. Ces gens-là ne semblent pas remporter la palme. Certains vont passer. Herschel Walker peut aller effectivement à une sorte de ballotage et ce n'est même pas parce qu'il est représentatif, mais c'est seulement parce qu'il y a Chase Oliver qui a pris les 2% qui vont manquer pour faire donc la majorité absolue en Géorgie, et je suis convaincu que dans un runoff, donc lorsqu'il y aura un deuxième tour, je suis convaincu que Warnock va passer. Donc d'une manière générale, Trump va évidemment dès demain proclamer que ses candidats sont passés, mais en réalité c'est une défaite si on y va ligne par ligne, et surtout l'importance de ces candidatures, et en particulier les jusqu'au boutistes qui souvent ont été vaincus. Et aussi il risque d'y avoir donc une tempête la semaine prochaine, parce que j'ai déjà vu donc Mike Pence aligner des interviews et des représentations à la télé et à la radio la semaine prochaine. Je ne serais pas surpris qu'il se proclame candidat avant que Trump ne se proclame candidat, ce qui va encore accentuer la division du Parti républicain.
Oui, et déjà le gouverneur de la Floride, DeSantis, a été réélu. Le gouverneur du Texas, un autre républicain aussi qui est candidat possible à la présidence, a été réélu, donc c'est intéressant à ce niveau. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale, veillée électorale 2022. Eric ?
Oui, monsieur Sidi Bé, vous êtes toujours avec nous ?
C'est Diabaté.
Diabaté.
Oui, je suis oui. Là.
Oui, le pays connaît une inflation record. Au regard des tendances actuelles, est-ce que vous avez l'impression que le facteur économie a vraiment dominé ce scrutin ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que et quand on regarde l'inflation qui est trop high, l'économie n'est pas aussi bon et le score soit aussi serré. Et je ne crois pas que l'économie a beaucoup joué. Mais moi, je pense que finalement, les partis, les démocrates et les républicains sont repartis dans leurs partis. C'est que, je veux dire, les républicains qui n'étaient pas pour le moment, qui ne voulaient pas voter républicain, finalement sont revenus à la maison. Et même les démocrates aussi sont revenus à la maison. Donc, je crois que c'est ce qui a fait que c'est beaucoup plus serré maintenant. Et puis surtout, il y a le camp républicain est très divisé maintenant. Ceux qui sont modérés et ceux qui sont les pro-Trump. Donc, la division aussi a beaucoup joué. Parce que les gens qui aiment Trump et que Trump a, les gens que Trump a soutenus ont des problèmes. Et je crois que, je me souviens que le chef des républicains a dit un jour que Trump a amené des gens qui ne peut pas être élu.
Ah, vous voulez parler du président, du chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell.
Mitch McConnell, yeah.
Il avait dit que la qualité des candidats comptait beaucoup. Pour ce qui est du Sénat, pour la Chambre des représentants, c'est une autre histoire.
Oui, mais moi je vois que le Sénat, ça va être, je crois que les démocrates, ça va être la même chose, 50-50. Ou un peu plus 51 pour les démocrates. Je ne vois pas les républicains gagner le Sénat. Moi, je ne vois pas.
Ok, on verra ça avec les résultats des prochains jours.
Dennis Beaver, on a vu, par exemple, à New York, même si le gouverneur actuel a scellé sa victoire. On a vu une percée des républicains. Apparemment, la question sécuritaire a beaucoup joué, a penché la balance.
Oui, 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 tout à fait. Mais laissez-moi dire une chose. À mon avis, c'est la première fois dans l'histoire, dans la mémoire, de voir les candidats qui sont, par exemple, Herschel Walker, le ancien footballeur, c'est un idiot, un crétin. Tu l'écoutes, il parle, mais il dit rien.
Oui, c'est vrai, et il y a eu beaucoup de controverses ou de scandales. Bon, il a toujours nié.
Oui. Combien de... Il est contre oui. L'avortement. Paraît-il,
oui.
Il a payé pour les avortements, qui sait combien, combien d'enfants il a
en
eu,
fait, le...
son fils a dit,
oui.
C'était pas un bon papa, mais si tu l'écoutes, tu penses alors, ce mec va devenir un mec important dans notre gouvernement.
Monsieur Beaver, il se trouve que l'ancien président Barack Obama lui-même a fait ce genre de réflexion en disant que ce n'est pas parce que vous avez été un grand joueur de football que vous devenez automatiquement un homme d'État ou un politicien ou un homme politique, qu'il fallait d'autres qualités que celles-là. Mais il semble aussi que Le statut de célébrité joue beaucoup, parce que c'est le cas aussi du candidat que l'on a en Pennsylvanie, le docteur Oz, Mehmet Oz. Et aussi, si vous regardez ce qui se passe dans l'Arizona avec, n'est-ce pas, la dame qui était aussi à la télévision. Donc, c'est un phénomène assez intéressant à observer sur la scène politique américaine.
Mohamed Bodj, vous êtes à New York. Comment vous expliquez cette percée des républicains certains républicains ils pensaient qu'il allait même remporter cet état de New York au niveau des élections de gouverneur.
Je pense que je pensais qu'en fait il y avait une sorte de surpublicité pour Zeldin, pour ce qui est du poste de gouverneur.
Le candidat républicain.
Voilà, c'est ça, le candidat républicain. Je n'ai jamais douté que Cassio Hochul allait gagner. Mais effectivement, le côté sécuritaire a joué son rôle dans certains quartiers et dans certains districts. Les Noirs ne sont pas allés voter autant qu'on s'attendait à ce qu'ils votent dans ces élections aussi, il faut le dire. Et troisièmement, le nouveau découpage électoral, en fait, a favorisé des circonscriptions qui étaient très, très démocrates, ont été divisées et éparpillées, et maintenant on se retrouve avec l'émergence d'au moins une ou deux circonscriptions qui vont plutôt pencher vers les républicains. Mais tout compte fait, et lorsqu'on fera le calcul demain, à part la défaite de Sean Patrick Maloney qui semble être acquise, il n'y a rien de nouveau qui se soit passé dans l'État de New York. Les démocrates tiennent les rênes et ils dominent la machine et leur majorité n'a jamais été mise en doute au niveau du congrès local. Donc, et la représentation new-yorkaise à Washington sera très fortement démocrate à une ou deux exceptions près.
Oui, de façon générale, et je vais poser la question à l'un d'entre vous qui est à répondre, si vous voulez bien. Il s'agit de savoir, au cours de ces élections, il a été beaucoup question du crime. Et on a, naturellement, les républicains disent que pour ce qui est de la violence, du crime, les démocrates sont faibles. Il y a eu l'inflation dont a beaucoup parlé le Parti républicain pour dire que la gestion du président Biden est déplorable. Il y a donc ces questions. Et puis, du côté démocrate, le président Biden et aussi l'ancien président Barack Obama ont tous parlé de ce qu'ils appellent « sauver la démocratie américaine », le péril que court la démocratie américaine. Selon vous, quelle a été la réaction du public au vu de ce qu'on sait déjà à propos de ces élections?
D'abord, je vais prendre la parole parce que les autres ont déjà parlé. Je vais dire quelque chose.
C'est M. Diabaté.
C'est M. Jorin Gandou depuis Atlanta, Georgia.
Ok.
Je pense que les élections ici sont fondamentalement définies par les éléments ici après. L'inflation, l'économie, les avortements, les crimes, les frontières qui sont ouvertes, l'éducation, ainsi de suite. Lorsqu'on pose la question à la population, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces élections? Il dit, moi, c'est l'économie, c'est l'inflation, ce sont des crimes, notre pays n'est pas protégé, nous ne sommes pas sécurisés. Donc, la gestion est calamiteuse. Le résultat des élections ici, peu importe ce qui peut arriver aujourd'hui, tôt ou tard, même dans deux ans, le président Biden aura à payer. Parce que l'inflation est là. Lorsque le président voit, on lui laisse le pouvoir, les gallons de l'essence étaient à 2 dollars ou à 1,95 $. Aujourd'hui, on l'achète à 4 dollars, 5 dollars. On lui dit qu'il y a l'inflation, il dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais qu'est-ce qu'il veut dire?
Monsieur Dennis Beaver, il suffit de dire qu'il y avait aussi cette question, vous vous intéressez n'est-ce pas, aux questions juridiques. Il y a eu cette question de l'avortement, surtout depuis la décision de la Cour suprême sur l'avortement. Alors, est-ce que ça a eu un impact, selon vous, dans ces élections?
Oui, certainement. Certainement. Notre Cour suprême, oh là là, ah mais quel crétin! C'est incroyable ce qu'ils ont dit. Oh là là, c'est un vrai cauchemar. Et ça nuit, hein, le respect qu'on avait pour notre Cour suprême, en faisant quelque chose aussi dangereux comme ça. Moi, j'étais sidéré de voir ça. Donc, oui, le pays, comme un de nos collègues a dit ce soir, est tellement divisé. J'ai peur, vraiment, pour notre démocratie. Les gens qui suivent notre Hitler, Trump, quel danger pour l'avenir de ce pays. Les gens qui croient, ils y croient, hein, ce qu'ils disaient. The big lie, comme on dit, un grand mensonge.
Merci beaucoup, Monsieur Beaver, bien entendu. Ces propos n'engagent que vous.
Mohamed Bodj, très rapidement, il nous reste quelques secondes. Quel est le poids des partis tiers dans ce scrutin?
Les indépendants ont plus ou moins faussé les yeux en Géorgie, certainement dans l'Utah. Donc, ce sont les deux États où, finalement, les candidatures indépendantes. Mais en Oregon et ailleurs, ces candidatures n'ont pas beaucoup pesé. Donc, ce pays est toujours divisé entre républicains et démocrates. Et s'il y a victoire des démocrates, c'est une défaite des républicains. Et s'il y a une victoire des républicains, c'est une défaite des démocrates. Donc, la polarisation est là. En fait, elle est même un peu plus solide, elle est même un peu plus ancrée qu'elle ne l'était peut-être il y a quelques années. Et donc, le consensus va être très, très difficile.
Voilà, et pour une précision sur l'avortement, la Cour suprême en a donné la responsabilité aux États. Alors, avant de se séparer avec vous, Eric, un rappel des résultats connus.
Selon Reuters et Associated Press, les démocrates ont déjà enregistré 48 sièges au niveau du Sénat. Les républicains ont 47 sièges et il faut 51 sièges pour avoir le contrôle de la Chambre haute. Au niveau de la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà 72 sièges et les républicains 197 sièges. Il faut souligner que les républicains ont repris aux démocrates 9 sièges, tandis que les démocrates ont repris aux républicains 3 sièges. Alors, il y a déjà des déclarations des deux côtés. Les républicains vont reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, a affirmé le leader républicain Kevin McCarthy, alors qu'il aura démarré des conservateurs aux élections, à ces élections de mi-mandat, semble plus limité que prévu. En début de soirée, Idrissa, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, avait, elle, prédit que les démocrates allaient faire bien mieux que prévu grâce à de bien meilleurs candidats. Le contrôle du Sénat est, lui, désormais est suspendu à 4 sièges, et l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et le Wisconsin. Le comptage de ces voix pourrait nécessiter plusieurs jours. Au côté gouverneur, ce qu'il faut retenir, le camp démocrate a arraché aux conservateurs 2 postes de gouverneur aux républicains. C'est dans le Maryland et le Massachusetts. Les démocrates ont aussi conservé le contrôle de l'État de New York, malgré les assurances des républicains. Idrissa.
Et pour la première fois, New York a élu une femme gouverneur de cet État.
Voilà. C'est Massachusetts.
Et aussi New York, pour la première fois, une femme à la tête de cet État.
C'est vrai, elle a remplacé
Cuomo. Voilà.
Cuomo.
Merci Eric, voilà c'est tout pour cette édition spéciale Veille électorale 2022 du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi, merci à nos invités, eh bien, Jory Ngundu, Likadi qui est à Atlanta, Géorgie, professeur Mohamed Modj de Manhattan College, Mamadou Ben Diabaté de Pennsylvanie, professeur Mohamed Camara à Philadelphie, Dennis Beaver, républicain avocat à Bakersfield, Californie. Voilà, merci au micro Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Fatima Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.